Hermogène. Ne pourrions-nous pas maintenant, Socrate, ainsi que tu l'as fait tout à l'heure pour le nom de Jupiter, examiner de la même manière quel peut être le sens propre des noms des autres divinités? Socrate. Bon, Jupiter, mon cher Hermogène, si nous étions sages, le mieux serait de dire que nous ne savons rien touchant les dieux, ni sur eux-mêmes, ni sur les noms dont ils s'appellent entre eux. Car pour ceux-ci, nul doute que ce ne soient les noms véritables. Le parti le plus convenable, après celui-là, ce serait de nous conformer à la loi qui ordonne à chacun d'appeler les dieux, dans ses prières, des noms dont ils aiment à être appelés. Cette pratique me paraît assez sage. Nous pouvons donc nous livrer à la recherche que tu me proposes, après avoir protesté d'avance auprès des dieux, que ce n'est point sur eux que nous portons notre examen. Nous en connaissons incapables, mais plutôt sur l'opinion que les hommes se sont faites des dieux et d'après lesquels ils leur ont donné des noms. Il n'y a rien là dont on puisse nous reprendre. On ne peut mieux dire, Socrate, faisons comme tu dis. Ne commencerons-nous pas par Hestia, suivant le rite consacré? Rien de plus juste. Quelle pouvait être la pensée de ceux qui ont donné à cette déesse le nom de Hestia? Par Jupiter, c'est ce qui ne me paraît pas facile à deviner. Et il semble, cher Hermogène, que ceux qui les premiers instituèrent les noms n'étaient pas de médiocres esprits, mais plutôt de sublimes penseurs et des raisonneurs subtils. Pourquoi cela? C'est que l'établissement des noms ne me semble pas pouvoir être rapporté qu'à de pareils hommes. Et si l'on étudiait les noms étrangers à ce pays-ci, on trouverait également à chacun une signification. Par exemple, pour celui dont nous parlons, remarquons que ce que nous appelons « Usia », l'essence, s'appelle en notre contrée « Esia », et d'ailleurs encore « Usia ». D'abord, on peut admettre que du second de ces trois mots, on a tiré le nom de l'essence des choses, « Estia ». Et si nous appelons « Estia », ce qui participe de l'être, Usia. Il s'ensuit encore que Estia était bien nommé, car nous aussi, à ce qu'il paraît, nous avons dit primitivement Estia pour Usia. En outre, si on fait attention aux cérémonies des sacrifices, on pourra se convaincre que telle était la pensée de ceux qui ont institué le nom d'Estia. En effet, il était naturel que Estia fût invoquée avant tous les dieux dans les sacrifices par ceux qui avaient ainsi appelé l'essence de toute chose. Quant à ceux qui lui ont donné le nom d'Ossia, ils auront peut-être pensé avec Héraclite que tout passe et que rien n'est stable. Et le principe d'impulsion, Tootun, étant la cause de ce flux perpétuel, ils ont dû trouver jusqu'à de le nommer Ossia. Ben voilà, c'est là-dessus pour des gens qui ne savent rien. Après Estia, il est juste de passer à Réa et à Cronos, quoique de ce dernier. Mais peut-être n'est-ce rien que ce que je vais te dire. Quoi donc, Socrate? Oh, mon cher ami, je vois apparaître tout un essaim de savantes explications. Mais voyons cela. C'est quelque chose de très bizarre, mais qui ne laisse pas d'avoir un certain degré de vraisemblance. Mais qu'est-ce donc, enfin? Bien, il me semble apercevoir qu'Héraclite, en traitant de certaines doctrines antiques, s'est rencontré sur Cronos et Rhea avec Homère. Mais comment? Héraclite dit que tout passe, que rien ne subsiste, et comparant au cours d'un fleuve les choses de ce monde, jamais, dit-il, vous ne pourrez rentrer deux fois dans le même fleuve. Mais il est vrai. Et quelle autre opinion pourras-tu attribuer à celui qui a placé en tête de la généalogie des dieux, Rhea et Cronos? Crois-tu que c'est au hasard qu'il leur a donné à tous deux des noms de courants? Eh bien, c'est sûrement dans le même sens qu'Homère a dit: l'océan, père des dieux, et leur mère Thétis. Bon, je crois qu'Hérodote, Hésiode en dit autant, quelque part dans Orphée se trouvent ces vers: l'océan au flux majestueux s'unit le premier par l'hymen avec sa sœur Thétis, née de la même mère. Considère combien ces témoignages s'accordent entre eux, et comme tout, ils vont bien à la doctrine d'Héraclite. Tu me parais avoir raison, Socrate, mais ce nom de Thétis, je ne vois pas ce qu'il veut dire. Mais oh non, ce mot s'explique presque de lui-même. C'est le nom de source, fontaine, un peu déguisée, ce qui jaillit, to diatoménon, ce qui coule, to estoménon, l'image d'une fontaine, et c'est de ce mot, de ces deux mots, que se compose le nom de Tétis. Oh, cela est fort joliment trouvé, Socrate. Pourquoi non? Mais qu'est-ce qui viendra après? Ah, nous avons déjà parlé de Zeus. Oui. Eh bien, passons donc à ses frères Poséidon et Pluton, en y ajoutant l'autre nom qu'on a donné à ce dernier. Soit. Le nom de Poséidon vint, si je ne me trompe, de cette circonstance. Celui qui l'établit se trouva un jour arrêté dans sa marche par la mer, qui ne lui permit pas d'aller plus loin, et qui fut comme une entrave, Desmos, pour ses pieds, Possi. De là, il appela le dieu qui commandait à cette puissance, Poséidon, de Possidesmos, obstacle pour les pieds. Probablement la lettre epsilon aurait été ajoutée à l'i iota pour l'élégance. Peut-être du reste, est-ce pas cela? Y avait-il autrefois, au lieu d'un sigma, deux lambda, ce qui faisait le dieu qui sait beaucoup de choses, Polaidos? Peut-être encore de l'action d'ébranler la terre, l'aura-t-on appelé celui qui ébranle, Océion. Et l'on aura ajouté ensuite le pi et le delta. Le nom de Pluton signifie qui donne la richesse, Ploutos, parce que la richesse provient des entrailles de la terre. Quant au nom d'Hadès, oh, je crois que la plupart des hommes l'entendent dans le sens d'invisible, to Hades, et que c'est pour éviter cette dénomination sinistre qu'ils préfèrent celle de Pluton. Mais toi-même, Socrate, qu'en penses-tu? Il me semble que les hommes se trompent de plusieurs façons sur le véritable pouvoir de ce dieu et qu'ils en ont toujours témoigné une terreur bien mal fondée. Le motif de cet effroi, c'est qu'une fois parti pour le pays des morts, nul n'en revient. Et c'est aussi que l'âme se rend dépouillée du corps auprès de ce dieu. Quant à moi, je trouve une conformité parfaite entre son pouvoir et son nom. Que veux-tu dire? Je vais t'expliquer ma pensée. Dis-moi, quel est le plus fort lien pour retenir quelque part un animal quelconque? La force ou le désir? Bon, sans comparaison, c'est le désir. Et ne crois-tu pas qu'il échapperait beaucoup de monde à Hadès s'il ne se retenait par les plus forts liens, ceux qui se rendent là-bas? Oui, certainement. Il faut donc que ce soit par la chaîne la plus puissante qu'il les attache, par le désir, non pas par la crainte, contrainte. Oui. Et n'y a-t-il pas bien des sortes de désirs? Sans doute. C'est donc par le puissant de tous les désirs qu'il les faut engager, si on veut les retenir par le lien le plus solide. Oui. Et en est-il de plus fort que celui d'un homme qui fréquenterait un autre homme dans l'espoir de devenir meilleur par cette société? Non, assurément, Socrate, il n'en est pas de plus fort. D'après tout cela, disons, Hermogène, que nul d'entre les morts n'a la volonté de revenir de l'empire de Pluton, Non, pas même les sirènes, mais qu'elles sont sous le charme comme tous les autres. Tant est grande la beauté des discours qu'Aïdès sait leur tenir. En sorte que ce dieu doit être un sophiste accompli, et en même temps un grand bienfaiteur pour ceux qui demeurent auprès de lui, puisqu'il envoie encore à ceux de ce monde de riches trésors. Il faut bien qu'il possède là-bas des richesses immenses, et c'est ce qui l'a fait nommer Pluton. En outre, refuser la compagnie des hommes tant qu'ils ont leurs enveloppes matérielles, et entrer en commerce avec eux dès que leur âme est affranchie de tous les maux et de tous les désirs du corps, n'est-ce pas là, à ton avis, être philosophe, et avoir bien su comprendre que le meilleur moyen de retenir les mortels est de les enchaîner par le désir de la vertu? Mais que, tant qu'ils sont sujets à l'obsession et aux folies du corps, il n'y a pas moyen de les fixer auprès de soi. Quand même le père de ce dieu, Cronos, y emploierait ces fameux liens qui ont gardé son nom. Ah, tu pourrais bien avoir raison, Socrate. Il s'en faut donc beaucoup, Hermogène, que ce nom de Haïdès soit tiré du mot ténébreux Haïdès. C'est plutôt la propriété de connaître, Eidénaï, tout ce qui est beau, qui lui fait donner ce nom par le législateur. Soit. Mais alors que dirons-nous de Déméter, de Héra, d'Apollon, d'Athénée, d'Héphaïstos, d'Arès et des autres dieux? Oh, le nom de Déméter vient, je pense, des aliments qu'elle nous procure et qu'elle donne, comme une mère. Didousa osmeter. Héra revient à aimable, Hératée. On dit en effet qu'elle est aimée de Jupiter. Peut-être aussi le législateur, tout occupé des choses du ciel, a-t-il voulu cacher sous ce nom celui de l'air, Aère, en mettant à la fin la lettre du commencement. Oh, ce qui est facile de reconnaître en prononçant de suite plusieurs fois le nom d'Héra. Bien des gens ont peur du nom de Ferrefetta et de celui d'Apollon, mais c'est, je crois, par ignorance de la juste valeur des noms. Ainsi, altérant le premier de ces noms, ils y trouvent Perséphone, qui leur paraît redoutable. La vérité est qu'il exprime la sagesse de cette divinité. En effet, si toutes choses sont en mouvement, la sagesse consiste à savoir les atteindre, les saisir, les suivre dans leur cours. Cette déesse aura donc été nommée à bon droit Férépaphare, ou quelque chose d'approchant, en raison de sa sagesse et de ce qu'elle connaît et atteint les choses dans le mouvement qui les emporte. Et pas fait tout fait Rome et nous. C'est parce qu'elles ressemblent aux sages Aïdès qu'on les unit l'un à l'autre. Mais on altère le nom de la déesse et, sacrifiant la vérité à une combinaison de sons plus agréables, on la nomme Ferrefata. Même frayeur du nom d'Apollon, comme s'il exprimait quelque idée funeste. Ne le sais-tu pas? Si fait, oh, tu ne dis rien que de vrai. Et ce nom est pourtant, selon moi, parfaitement approprié aux fonctions de ce dieu. Mais comment cela, Socrate? Je vais essayer de te dire comment je l'entends. Je ne crois pas qu'on eût pu trouver un mot plus analogue à la fois aux quatre différents attributs du dieu, la musique, la divination, la médecine et l'art de lancer les flèches, un nom qui s'y appliqua mieux, les exprima plus clairement. Explique-toi, ce serait là s'il fallait en croire un nom bien bizarre. Non, dis plutôt un nom plein d'harmonie, comme il convient à un dieu musicien. D'abord, les purgations et les purifications, soit de la médecine, soit de l'art divinatoire, les fumigations de soufre, les ablutions, les aspersions, soit dans le traitement des maladies, soit dans des opérations divinatoires, tout cela se rapporte à un seul et même but, qui est de rendre l'homme pur de corps et d'âme. Assurément. Donc le Dieu purificateur sera à la fois celui qui lave Apollouon et qui délivre Apolluon des maux du corps et des maux de l'âme. Sans contredit. Ainsi, à cause de la délivrance et de la purification de tous ces maux qu'il opère en qualité de médecin, on peut l'appeler convenablement Apolluon. À l'égard de la divination, l'art de trouver le vrai et le simple à Ploun, car c'est la même chose. Le nom qu'on lui donne en Thessalie lui conviendrait fort bien. Tous les Thessaliens appellent ce dieu Aplon. En troisième lieu, considéré comme archer, toujours sûr de ses coups, il est dans l'art de lancer les flèches le dieu qui atteint toujours au but, Aéballon. Enfin, relativement à l'art musical, il faut remarquer que comme l'apfa dans certains mots, tels que akolouthos, suivant, et akopis, épouse, signifie ensemble. Le nom dont il s'agit exprime l'ensemble, la concordance d'une révolution du ciel, polesis, autour de l'axe des pôles, polon, avec l'harmonie dans le chant que l'on appelle symphonie. Car, au dire des gens habiles dans la musique et dans l'astronomie, la révolution du monde forme une harmonie. Or, le Dieu dont nous parlons préside à l'harmonie, dirigeant à la fois ce double mouvement, homopolone, chez les dieux et chez les mortels. Et de même, donc, homokéletos ou homokopis ont produit akolutos et akopis, en changeant l'omicron en alpha, de même Apollon s'est formé de homopolone en ajoutant une L pour éviter l'équivoque avec un mot dont le sens est fâcheux. Et c'est ce même mot que, faute d'avoir bien compris la force du nom d'Apollon, certaines gens redoutent encore aujourd'hui, comme s'il annonçait quelque fléau. Le véritable nom, au contraire, s'applique parfaitement, ainsi que nous venons de le faire voir, à toutes les attributions du Dieu, à la science du vrai et du simple, à l'art de lancer les flèches toujours sûres, à l'art de purifier, à l'art de conduire en même temps. Le mouvement du ciel et les concerts. Le nom des muses, et en général celui de la musique, paraît avoir été tiré de mousravaille, chercher, et de l'amour des recherches de la philosophie. Leto a été ainsi nommé à cause de sa douceur, comme une divinité disposée à vouloir tout ce qu'on lui demande. Ou peut-être faut-il prononcer ce nom comme le font les étrangers. Un grand nombre disent Leto. Ce nom viendrait alors du caractère exempt de rigueur, doux et uni de cette déesse, Leonetos. Artémis paraît signifier l'intégrité, Toethémès, la pureté, et se rapporter à son amour pour la virginité. Peut-être l'inventeur du nom a-t-il voulu dire qu'elle connaît la vertu, Arethesistor. Peut-être a-t-il encore voulu exprimer la haine pour le commerce de la femme avec l'homme, Aroton Missematsa. Il se sera déterminé sans doute par quelqu'une de ces raisons, ou bien par toutes à la fois. Et que diras-tu alors de Dionysios et d'Aphrodite? Voilà deux questions difficiles, fils d'Hipponicus. Les noms de ces divinités ont un double sens, l'un grave, l'autre frivole. Adresse-toi à d'autres pour le sens sérieux. Pour le frivole, rien ne nous défend de nous en occuper, car aussi bien ces divinités aiment la plaisanterie. Dionysios sera donc celui qui nous donne le vin, Didus tonoinon, et on l'aura nommé en plaisantant Dionysos. Le vin lui-même, ou oinos, qui fait que la plupart des buveurs se figurent oyontai, avoir l'intelligence nous qu'ils n'ont pas, a fort bien pu être appelé oyonous. Et pour ce qui regarde Aphrodite, ce n'est pas la peine de contredire Hésiode. Il faudra mieux de convenir avec lui qu'elle doit son nom à l'écume atroce de la mer d'où elle naquit. J'espère, Socrate, qu'étant athénien, tu n'oublieras pas Athénée, et que tu ne passeras pas non plus sous silence Héphaïstos ni Arès. Oui, cela ne serait pas bien. Non, sans doute. L'autre nom d'Athénée est facile à expliquer. Lequel? Mais ne donne pas aussi à cette déesse le nom de Pallas. Oui. Nous ne nous tromperions pas, je pense, en faisant venir ce nom de la danse armée. Nous exprimons l'action de s'élancer soi-même en l'air, d'élever quelque chose de terre ou de lancer avec les mains par les mots « okloun » ou « orkeistai ». Sans contredit, eh bien c'est de là qu'est venu le nom de Pallas. Bien, mais que dis-tu de l'autre nom? Athénée? Oui. Ceci est plus difficile, Hermogène. Je crois que les anciens ont eu sur Athénée la même idée que ceux qui se piquent aujourd'hui de bien entendre Homère. La plupart d'entre eux disent que leur auteur a fait de ses divinités la pensée, l'intelligence même. Et celui qui a fait les noms paraît être entré dans le même sens, et plus avant encore en l'appelant pensée de Dieu, noesisteu, comme qui dirait la théonoé à théonoïa, en ajoutant un alpha au lieu de eta, suivant un dialecte étranger et en retranchant l'epsilon et l'iota de noesis. Peut-être aussi l'a-t-il appelée théonique parce qu'elle possède excellemment la connaissance des choses divines, teia nosousse. Il n'est pas impossible non plus qu'on l'ait voulu appeler étonnoé, comme étant la raison, l'intelligence dans les mœurs, noesis entoetei. Ainsi, l'inventeur de ce mot ou ceux qui l'ont suivi, en faisant quelques changements pour la grâce de la prononciation, en seront venus à dire Athénée. Et comment expliques-tu le nom d'Héphaïstos? Oh, tu veux mon opinion sur ce grand maître dans la connaissance de la lumière, Phaesos Histor. Oui, mais tout le monde y reconnaîtra un dieu lumineux, Phaistos, avec un état en avant du mot. Mais il y a apparence, à moins qu'il ne te vienne quelque autre idée, comme cela est assez probable. Pour échapper à ce danger, demande-moi le sang d'Arès. Soit. Mais si tu veux, Arès viendra de arène, mâle, andréon, viril. Ou, si tu veux mieux, considérer son caractère âpre et inflexible, araton, le nom d'Arès se trouvera très convenable pour un dieu si guerrier. Assurément. Allez, maintenant, au nom des dieux, laissons-là les dieux. Il n'est point le sujet que je redoute si fort. Du reste, attaque-moi sur tout ce qu'il te plaira. Tu apprendras ce que valent les coursiers de Timon. Ben, je le veux bien, pourvu que tu me répondes encore à une question sur Hermès, puisque Cratyl s'avise de me confesser, me contester que je sois bien Hermogène, fils d'Hermès. Examinons donc le sens de ce mot Hermès pour voir s'il a raison. Sûrement ce nom doit avoir trait à la parole et au discours, car les divers attributs d'Hermès, interprète, erreneus, messager, rasé, voleur, séduisant, discoureur, protecteur des marchés publics, tout cela se rapporte à la puissance de la parole. Or, comme nous l'avons déjà observé précédemment, Le mot eirein désigne l'exercice de la parole. De plus, le mot emesato, qu'on emploie souvent en mer, signifie inventer. Ainsi, en considération de ces deux choses, la parole et l'invention de la parole, et attendu que eirein sait parler, le législateur semble nous dire au sujet de ce Dieu, celui qui a inventé la parole, to eirein emesato. Il serait juste au homme qu'il fût appelé par nous Eiremes. Mais nous croyons sans doute donner à ce mot un tour plus élégant, nous disons Hermès, et c'est aussi à ce mot Eirene qu'il semble devoir son nom en sa qualité de messagère. Par Jupiter, je crois maintenant que Cratyle avait raison de ne pas vouloir que je sois Hermogène, car je ne suis pas un très habile artisan de parole. Mais il est tout simple, mon cher ami, que Pan soit le fils d'Hermès et réunisse de nature. Mais comment cela? Tu sais que la parole exprime toute chose, topan, qu'elle roule en quelque sorte et circule sans cesse, et qu'elle est de deux espèces, véritable ou mensongère. Oui. Alors, la partie de la vérité en doit-elle des légères? Divine, placée là-haut, avec les immortels. Et celle du mensonge doit résider avec le vulgaire des hommes, d'une manière brutale et analogue à celle du bouc, car c'est dans cette vie de bouc que prennent naissance la plupart des fables et des mensonges. Certainement. Il est donc raisonnable que la puissance qui énonce toute chose et qui est toujours en circulation dans le monde, Aipolon, soit appelé Panapolon, Panaipolos, le fils d'Hermès à deux natures, gracieux et beau dans ses parties supérieures, vêtu et semblable à un bouc dans les inférieures. Ainsi, comme fils d'Hermès, Pan est ou le langage même, ou le frère du langage. Et qu'y a-t-il d'étonnant à ce que le frère ressemble au frère? Mais mon ami, comme je t'en priais tout à l'heure, laissons là tout propos sur les dieux. D'accord, mon cher Socrate, pour ces dieux-là. Mais qui t'empêcherait de t'occuper d'être divin d'une autre sorte, tel que le soleil, la lune, les étoiles, la terre, les terres, l'air, le feu, l'eau, les saisons, l'année? Bon, tu m'apprêtes là bien de la besogne. Je m'en occuperai volontiers, si cela peut être agréable. Tu me feras un grand plaisir. Par où commencer? Par le soleil, dans l'ordre de son énumération. Soit. Le mot Hélios s'explique facilement dans le dialecte des Doriens, qui disent Alios. Alios doit venir de ce que le soleil rassemble, Alizei, les hommes aussitôt qu'ils se lèvent, ou encore de ce qu'ils tournent perpétuellement, aïeilei, autour de la terre. Peut-être encore de ce que dans son cours il nuance de diverses couleurs les productions de la terre, car nuancer c'est aïolein. Et la lune, séléné. Ah, voilà un mot qui fait tort à Anaxagoras. Pourquoi? Parce qu'il semble supposer, comme une doctrine bien antérieure à la mienne, ce qu'il a réellement enseigné, que la lune reçoit sa lumière du soleil. Mais comment cela? Mais les mots « sélas » et « fausse » n'expriment-ils pas la même chose, la lumière? Oui. Et au dire des disciples d'Anaxagoras, cette lumière du soleil que réfléchit la lune est toujours nouvelle et toujours ancienne. Car puisqu'il tourne sans cesse en l'éclairant, il lui envoie sans cesse une lumière nouvelle. Mais celle du mois qui précède est ancienne. Oui, fort bien. Or, bien des gens disent pour Séléné, c'est l'Anaïa. C'est vrai? Donc, comme elle a une lumière toujours nouvelle et toujours ancienne, Celos Neon, on ne pouvait rien mieux faire que de l'appeler Selaenoneiden Seria, dont on aurait fait par abréviation Selonaya. En vérité, Socrate, voilà un mot dithyrambique. Mais que penses-tu des mots meis, moi et astra, astre? Meis, qui vient sûrement de meisustai, diminué, aurait pu se dire proprement meies. Les astres tirent leur nom, je crois, de leur éclat astrapai. Ce dernier mot qui désigne ce qui attire les yeux, un astre effeuille taota, devait se dire proprement un astrosé, mais on en a fait pour plus d'élégance, astrapai. Et les mots purs, le feu et udor, l'eau. Le feu m'embarrasse. J'ai peur ou que la muse de Typhon ne m'ait abandonné ou que la question ne soit bien difficile. Mais remarque, Hermogène, l'expédient que j'emploie dans toutes ces questions quand elles m'embarrassent. Voyons, Socrate, le voici. Réponds-moi, saurais-tu me dire d'où vient ce mot pur, le feu? Non, en vérité. Eh bien, voici ce que je soupçonne. J'imagine que les Grecs, et surtout ceux qui habitent des contrées soumises à la domination des barbares, ont emprunté aux barbares beaucoup de mots. Et qu'en fais-tu de là? C'est que l'on s'exposerait à bien des difficultés si l'on voulait interpréter de tels mots à l'aide de la langue grecque, et non pas d'après la langue à laquelle ils appartiennent. Oui, cela se pourrait bien. Vois donc si ce mot pur ne serait pas d'origine barbare. D'abord, il ne sera pas facile de le dériver d'un mot grec. Ensuite, nous savons qu'en Phrygie, on emploie dans le même sens le même mot légèrement modifié, ainsi que ceux de Udor, l'eau, et de Kuon, le chien, et beaucoup d'autres. Tu as raison. Il ne faut donc pas tout romanter les mots de cette espèce, car on n'en pourrait parler qu'au hasard. J'écarte donc pur et udor. Mais Hermogène, le nom de l'air aère, l'a-t-on tiré de ce qu'il enlève, aerei, ce qui est sur la terre, ou bien ce qu'il a dans un flux perpétuel, aerei, ou encore de ce que ce flux de l'air produit les vents que les poètes désignent par le mot aeras? C'est donc comme si on disait pneumatorun ou aerorun, qui s'écoule en souffle, en vent, d'où viendrait aer. L'éther, aïther, peut paraître ainsi appelé de ce qu'il court toujours en circulant autour de l'air. Aeithei reon periaera. Le vrai nom serait donc aeither. Quant au mot gai, la terre, la signification sera plus manifeste en prononçant Gaïa. Gaïa, c'est Genteira, génératrice au sens d'Homère, qui emploie Gegasi pour Gegenestai, être engendré. Mais à la bonne heure! Et qu'est-ce qui vient après? Les saisons, Horaï et l'armée, Eniotos et Oh, d'abord, si tu veux retrouver l'origine probable du mot Horaï, il faut le prononcer Horaï, suivant l'usage antique. Les saisons sont aussi appelées du mot horizo, terminé, parce qu'elles déterminent l'hiver, l'été, l'époque des vents et de chaque production de la terre. Quant aux deux mots ignotos et ethos, il me semble qu'ils reviennent au même. On aura voulu désigner ce qui met chaque chose au jour et l'éprouve en soi-même, auto en neoto et tetzaxone. Et on aura partagé cette phrase en deux mots, comme nous avons vu qu'on avait divisé le nom de Jupiter, les uns disant Zenna, les autres Dia. Ainsi les uns ont nommé l'année Ethos, parce qu'elle éprouve, etadzei, les choses et les autres, ignotos, parce que c'est dans elle-même, eneoto, qu'elle les éprouve. En somme, l'explication est qu'on a divisé en deux l'expression de ce qui s'éprouve en soi-même, de manière à ne former qu'une seule et même idée, les deux mots ethos et ignotos. Véritablement, Socrate, tu fais de grands progrès. Me semble que me voilà déjà loin dans la route de la sagesse. Oui, vraiment. Tout à l'heure, tu en verras bien d'autres. Après cette classe de mots, je prendrai grand plaisir à considérer ce qu'il peut y avoir de conforme à la nature des choses dans ces beaux noms qui se rapportent à la vertu, tels que sagesse, phronesis, intelligence, synesis, justice, dikaiosyne, et tous les autres mots de cet ordre. Oh, tu lances là, mon ami, un terrible gibier. Mais n'importe, puisque j'ai fait une fois revêtu la peau du lion, il faut pas reculer. Il faut, à ce qu'il paraît, nous livrer à l'examen de la sagesse, de l'intelligence, de la connaissance, de la science et de tous ces beaux noms dont tu parles. Oh non, il ne faut pas lâcher prise. Par le chien, il me semble que je l'ai pas mal deviné en imaginant, comme je le faisais tout à l'heure, que les hommes de l'Antiquité la plus reculée, qui ont institué les noms, ont dû éprouver le même accident qui arrive aujourd'hui à la plupart de nos philosophes. Je me dis qu'à force de tourner en tous sens dans la recherche de la nature des choses, la tête leur aura tourné à eux-mêmes, et ce vertige leur a fait voir tous les êtres dans un mouvement perpétuel. Mais ils ne s'avisent guère d'aller chercher dans leur disposition intérieure l'explication de leur manière de voir. Ils croient que ce sont les choses mêmes qui roulent de la sorte et qui de leur nature n'ont rien de stable ni de fixe. Ce n'est à les entendre que flux et révolutions, mouvements et générations perpétuelles. Or, j'applique cette remarque aux mots dont il s'agit. Comment cela, Socrate? Mais tu n'as peut-être pas remarqué que ces mots supposent que tous les êtres sont dans un mouvement, un flux, un renouvellement continuel. Non, je m'en étais pas douté. Mais d'abord, le premier dont nous avons parlé est complètement dans ce sens. Lequel? La sagesse. Phronesis. C'est l'intelligence de la mobilité des choses et leur flux continuel. Phoras kai runomosis. Peut-être aussi faut-il entendre par ce mot ce qui aide au mouvement. Phoras onesis. De toute manière, il s'agit du mouvement. La connaissance, gnome, sera, si tu veux, l'étude et la considération de la génération, gones nomesis, car noman, c'est considéré. Et si tu veux encore l'intelligence, noesis sera le désir de nouveauté, neosesis. La nouveauté des êtres signifie ici qu'ils deviennent sans cesse. Et celui qui a fait le nom de Neoesios a voulu désigner l'amour de l'âme pour la nouveauté. Car on ne disait pas autrefois Noesis. Au lieu de l'Eta, il y avait deux epsilon, ce qui faisait Neoesios. La tempérance, Sophrosyne, est la conservatrice de ce dont nous venons de parler, de la sagesse. Soteria phroneseos. La science, épistémé, exprime l'attachement d'une âme raisonnable à suivre les choses dans leur cours, sans les abandonner, sans les devancer en conséquence. Il faut retrancher la lettre epsilon et dire pistémé, fidèle. On peut dire païment que si synesis, compréhension, a de l'analogie avec syllogismos, raisonnement, qui unit des propositions. Cependant, le verbe suniénai, comprendre, exprime la même chose que épistastai, savoir. Car suniena y indique le mouvement de l'âme accompagnant les choses dans leur cours. Sophia, sagesse, c'est encore un mot qui indique l'action d'atteindre, le mouvement. Oui, ceci leur convient, quelque chose de plus obscur et de plus étrange. Mais souvenons-nous d'abord que les poètes, pour exprimer qu'une chose se met en mouvement avec rapidité, se servent du mot « esutai ». Il y a eu un personnage célèbre de Lacédémone qui s'appelait Soïs, c'est-à-dire pont, car c'est le mot dont se sert à Sparte pour exprimer un élan rapide. Sophia équivaut donc à Sos épophé, l'action d'atteindre le mouvement, ce qui se rapporte à l'idée du mouvement universel. Le mot agathon, bon, revient à agastos, tout ce qui est admirable dans le monde. Or, en admettant le mouvement perpétuel des choses, il faut admettre aussi qu'il y a entre elles des différences de lenteur et de célérité. Tout n'est pas par conséquent rapide et prompt, mais il y a des objets qui sont admirables par cette qualité. De là le mot agathon. La justice, dit Caïos Huné, s'explique facilement par l'intelligence du juste, dit Caïus Hunésis. Mais le juste, dit Caïon, oh, est un mot difficile. Ici, on ne s'accorde que jusqu'à un certain point au-delà duquel les opinions se partagent. Ceux qui croient que tout est en mouvement supposent que la plus grande partie de l'univers ne fait que passer, mais qu'il y aura un principe qui parcourt l'univers et produit tout ce qui passe, et que ce principe est d'une vitesse et d'une subtilité extrêmes. Car ils ne pourraient traverser toute chose dans leur mouvement s'il était assez subtil pour que rien ne pût l'arrêter, et assez rapide pour qu'en comparaison de la vitesse de sa course, tout fût comme un repos. Ainsi, puisque ce principe gouverne toutes les choses en les parcourant et en les pénétrant, Diaion, on l'a appelé avec raison Dikaion en ajoutant le kappa pour rendre la prononciation plus coulante. Jusqu'ici, ainsi que je viens de le dire, on s'accorde généralement à reconnaître que telle est la nature du juste. Mais moi, Hermogène, qui suis fort curieux de tout ce qui concerne la justice, je m'en suis enquis en secret, et j'ai appris que ce dont nous parlions est tout à la fois le juste et la cause. Car la cause, c'est ce par quoi, dit Yo, une chose est produite. Et c'est pour cela, m'a-t-on dit en confidence, que le nom de Dikaion est propre et convenable. Mais lorsqu'après avoir écouté ceux qui me parlent de la sorte, je ne lasse pas de leur demander tout doucement « S'il en est ainsi, qu'est-ce donc de grâce que le juste ?» Oh, il trouve que c'est pousser trop loin les questions et sauter, comme on dit, par-dessus la barrière. Ils prétendent que j'en ai assez demandé, assez entendu, et quand ils veulent rassasier ma curiosité, alors ils ne s'accordent plus, et ils s'expliquent chacun à leur manière. L'un dit « Le juste, dit Caïon, c'est le soleil. » Lui seul en effet gouverne les êtres en les pénétrant et les échauffant, dit Caïon, Caon. Et vais-je, tout joyeux de cette découverte, la redire à quelque autre? Voilà un homme qui se moque de moi et me demande si je crois qu'il n'y a plus de justice entre les hommes quand le soleil est couché. Et si je lui demande à lui-même son opinion? Le juste, me dit-il, c'est le feu. Mais cela n'est pas encore très facile à comprendre. Un troisième définit le juste, non pas le feu, mais la chaleur qui est dans le feu. Un quatrième, enfin, se moquant de tous les autres, prétend que le juste, c'est ce que dit Anaxagoras, à savoir l'intelligence. C'est elle qui gouverne le monde par elle-même, et qui, sans se mêler à rien, arrange toutes les choses en le pénétrant, dit Aïon. Alors je me trouve, mon cher ami, dans une bien plus grande incertitude qu'avant d'avoir commencé à m'enquérir de la nature du juste. Mais pour notre philosophe, il est bien convaincu que telle est l'origine du nom qui nous occupe. À ce qu'il semble, Socrate, tu ne dis là que ce que tu as entendu dire à d'autres et tu ne parles pas d'après toi-même. Mais n'ai-je pas fait de même pour les autres noms? Non, pas tout à fait. Eh bien, suis-moi. Peut-être saurais-je également te faire illusion sur le reste et te donner à penser que je parle d'après moi seul. Après la justice, de quoi devons-nous parler? Ah, nous ne nous sommes pas encore occupés, je crois, du courage, Andrea. Évidemment, l'injustice, Adikia, est proprement l'obstacle de ce qui pénètre les choses. Or, le nom de Andrea semble avoir été fait pour le courage dans le combat, et ce nom indique que si les choses sont en mouvement, le combat ne peut être qu'un mouvement contraire. En effet, il n'y a qu'à retrancher la lettre delta pour retrouver la fonction propre du courage dans Anria, résistance à un courant. Il est bien clair que le courage n'est pas un courant contraire à tout autre courant quelconque, mais à celui-là seul qui lutte contre le cours de la justice. Autrement, le courage n'aurait rien de louable. De même, les mots arren, mal, et aner, homme, ont bien de l'analogie avec les précédents, comme signifiant un cours de bas en haut, ano, roe. Le mot guné, la femme, me paraît signifier génération, goné. Telu, femelle, provient sans doute de telle, mamelle. Et telle ne semble-t-il pas Hermogène désigner ce qui fait végéter, telle ténaille, ce qui l'arrose? Je te crois, Socrate, le mot tallo lui-même, végété, me paraît représenter ce qu'il y a de rapide et presque de soudain dans la croissance des jeunes gens. C'est là ce qui semble avoir voulu imiter celui qui a fait ce nom, en le composant de tein, courir, et de allestai, s'élancer. Mais ne t'aperçois-tu pas que quand je me trouve sur un terrain plus facile, je m'amuse à abattre les buissons? Cependant, il nous reste encore à traiter un bon nombre de questions ardues. Oui, tu as raison. Par exemple, il faudrait rechercher ce que veut dire techné, art. Oui. Ce mot n'indique-t-il pas une certaine manière d'être de l'esprit, exis-nous? Oh, il suffit de retrancher le tout et d'ajouter un omicron entre le qui et le nu, ainsi qu'entre le nu et l'état, et conoé. Oh, voilà, Socrate, une bien mauvaise explication. Mais ne sais-tu pas, mon cher Hermogène, que les noms primitifs sont devenus méconnaissables par les changements qu'on leur a fait subir pour les rendre plus magnifiques, en ajoutant, en retranchant des lettres pour plus d'harmonie, et en défigurant les mots de toute manière par de faux embellissements ou par les changements que le temps amène. Témoin, le mot catoptrone, miroir, la lettre rho qu'on a mise là, ne te semble-t-elle pas déplacée? Mais telle est la pratique de ceux qui comptent pour rien la vérité du sens, et qui ne songent qu'à adoucir la prononciation, de sorte qu'à force d'ajouter aux mots primitifs, ils ont fini par nous en rendre le sens méconnaissable. Ainsi de fixe, ils ont fait sphinx, le sphinx. Et il y a beaucoup d'autres exemples du même genre. Oui, cela est bien vrai, Socrate. Mais d'autre part aussi, en laissant à chacun la faculté d'intercaler des lettres et d'en retrancher à son gré, il deviendra bien facile d'accommoder chaque nom à tout ce qu'on voudra. Cela est encore vrai, très vrai. C'est donc à toi de faire ici l'office d'un sage président et de maintenir la mesure convenable. Je le voudrais. Et moi, je le veux avec toi. Toutefois, mon cher Hermogène, ne sois pas trop pointilleux et crains d'énerver mon courage. Car j'arrive tout à l'heure à ce qui doit former le couronnement de tout ce que j'ai dit. Quand, après le mot techné dont je viens de parler, j'aurai traité du mot mécanée, habileté. Mécanée indique l'action d'achever, anein, un travail de le conduire loin. En effet, le mot mécos exprime la longueur. C'est donc de ces deux mots mécos et anein qu'on a composé mécanée. Mais, je le répète, il faut s'élever à ce qui domine tout ce que nous avons dit. Il faut chercher le sens des mots vertu, arete, et méchanceté, kakia. L'un des deux ne me paraît pas encore facile à entendre. L'autre me semble expliquer de soi-même, en ce qu'il se rapporte parfaitement à tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. En admettant le mouvement général de toutes choses, tout ce qui va mal, kakosion, sera ce que nous nommons kakia. Ce mauvais mouvement, lorsqu'il se trouve dans l'âme, mérite bien par excellence le nom de kakia. Mais qu'est-ce que ce mauvais mouvement? C'est ce qui me paraît ressortir du mot lâcheté, dailia, mot que nous n'avons pas encore examiné et dont nous aurions pu parler après celui de courage, andria. Au reste, je vois que nous en avons mis ainsi beaucoup d'autres. Je dis donc que la lâcheté est pour l'âme un lien, desmos, très fort. Et le mot liane, beaucoup, exprime la force de ce lien. Ainsi, la lâcheté est le plus fort et le pire lien de l'âme, comme l'hésitation, aporia, est aussi un mal et en général tout ce qui fait obstacle au mouvement d'aller et d'avancer, ienai, poruestai. Ceci nous fait donc voir que aller mal, c'est avoir un mouvement ralenti, entravé, et que tout ce qui se trouve dans ce cas devient plein de mal. Or, si tel est le nom de cet état de l'âme, le nom de l'état contraire doit être celui de vertu, arete. Il signifiera d'abord une allure facile, Euphoria, et par suite le mouvement libre et en quelque sorte le cours perpétuel d'une âme honnête. Et c'est ce cours perpétuel, aeireon, exempt d'obstacles et de toute contrainte, qu'il est juste d'appeler aeireitei. Peut-être le vrai mot serait-il aeireitei, préférable parce que la vertu est l'habitude de l'âme qui convient le plus de choisir. Aireto tate, et en contractant le mot, on aurait fait arrêter. Et que diras-tu encore que ce sont là des fictions de ma façon? Je te répondrai que si notre interprétation du mot kakia est fondée, il doit en être de même pour arrêter. Mais ce mot kakon, mal, dont tu t'es déjà servi plusieurs fois pour en expliquer d'autres, d'où vient-il lui-même? Mais mot singulier en vérité est bien difficile à éclaircir. Aussi vais-je recourir à mon grand expédient. Lequel? C'est-à-dire que ce terme est d'origine barbare. Oui, cela paraît probable. Mais si tu le trouves bon, laissons cela et cherchons à reconnaître la juste valeur des mots calonne, beau et Aïskron, lait. Le sens de Aïskron me semble très clair. Il s'accorde avec celui des mots précédents. L'inventeur des mots paraît avoir voulu blâmer, d'une manière générale, ce qui entrave et suspend les cours des choses. Ainsi, à ce qui arrête toujours le mouvement, Aïskonti Torun, il a donné le nom de Aïskorun, qui fait aujourd'hui par contraction aïskron. Et qu'est-ce que calonne? Si est plus difficile à entendre. Pourtant, ce n'est là qu'une affaire de prononciation et le changement de l'accent et de la quantité de lou. Que veux-tu dire? Mais ce mot me paraît être une manière de désigner l'intelligence. Explique-toi, Socrate. Voyons. Qui fait, selon toi, que les choses s'appellent ainsi qu'elles s'appellent? N'est-ce pas ce qui a inventé les noms? Eh bien, or il faut que ce soit l'intelligence, ou des dieux, ou des hommes, ou des uns et des autres. Sans doute. Donc, ce qui a appelé les choses par leur nom, Tokalesan, et le beau, Tokalon, sont la même chose, à savoir l'intelligence. Évidemment, mais tout ce qui est l'ouvrage de la pensée et de l'intelligence est louable et le contraire blâmable. Oui. La médecine produit les remèdes, l'art de bâtir les bâtiments n'est-il prêt? Sans contredit. Et de même, le beau Tokalon devra produire de belles choses. Nécessairement. Et cela, c'est, disons-nous, l'intelligence. Oui. Donc le mot Tokalon est un nom bien approprié à cette intelligence qui exécute des ouvrages que nous déclarons beaux et que nous louons à ce titre. J'en tombe d'accord. Et que nous reste-t-il à examiner dans cet ordre de choses? Ou les termes qui se rapportent au bon et au beau dont nous venons de nous occuper, l'avantageux, le profitable, l'utile, le lucratif et leur contraire. En faisant usage de nos observations précédentes, tu trouveras toi-même facilement l'origine du mot xynpheron, avantageux. Il a l'air de famille avec le nom de la science. Épistémé. En effet, il ne désigne autre chose qu'un mouvement simultané, synphora, de l'âme avec les choses. Et tout ce qui résulte de ce mouvement s'appelle symphéron et symphoron, avantageux, du mot symphériferestai, être emporté simultanément alentour. Soit. Kerdaleon, lucratif, vient de kerdos, gain. Et ce dernier mot, en mettant un nu à la place du delta, s'explique de lui-même. Il ne signifie autre chose que le bien. On a établi ce nom pour exprimer la propriété que possède le bien de se mêler, keranuntai, en pénétrant tout. Et en changeant le dé en delta en nu, on a prononcé kerdos. Et que dis-tu du mot lucitelun, profitable? Je ne pense pas, Hermogène, que ce mot ait été établi d'abord dans le sens que lui donnent les marchands comme signifiant ce qui libère de la dette. Il désigne, je crois, ce qu'il y a de plus rapide dans l'être, ce qui ne permet pas aux choses de s'arrêter, ni au mouvement de cesser, de prendre fin, l'affranchissant toujours, l'uone, de ce qui voudrait l'amener à cette fin, télos, et ne lui accordant ni terme ni repos. C'est pour cette raison que le bien même me paraît aussi pouvoir s'appeler cusitelun, c'est-à-dire ce qui affranchit le mouvement de sa fin, lucintotelos thesphoras. Quant à ophélimon, utile, c'est un mot étranger, dont Homère a fait souvent usage sous la forme du verbe ophellein. C'est un mot qui exprime l'augmentation, l'accomplissement. Mais que dirons-nous des contraires de ces mots? Bon, il me semble inutile de nous occuper de ceux qui ne contiennent que la négation des mots déjà expliqués. Lesquels? Ah, symphoron, inutile. Anopheles, non avantageux. Aluspeles, non profitable. Et Akeroès, non lucratif. Mais tu as raison. Mais parlons de blabéron, nuisible et zelzimones funeste. Ah, la bonne heure! D'abord, babléron, nuisible, désigne ce qui retarde le flux des choses, to blaptonton. Le mot blapton, à son tour, signifie qui veut enchaîner, boulomenon aptein. En effet, aptein exprime la même chose que dein, enchaîné, et c'est ce que blâme toujours celui qui a institué les noms. En conséquence, ce qui veut arrêter le mouvement peut naturellement s'appeler Bulabterun, ou pour plus élégant dans la prononciation, Blaberon. En vérité, Socrate, les noms deviennent bien bizarres entre tes mains. Avec ton Bulabterun, j'ai cru entendre imiter des lèvres le prélude de l'hymne à Minerve. Mais ce n'est pas à moi qu'il faut t'en prendre, Hermogène. C'est à ceux qui ont fait ce mot. Il est vrai, oui. Mais maintenant, que faut-il penser de Zémiodès funeste? Zémiodès, dis-tu? Remarque, Hermogène, combien j'ai raison d'observer que par l'addition ou le retranchement de quelques lettres, on change considérablement le sens des mots. Une légère altération peut leur faire dire tout le contraire de ce qu'ils voulaient dire d'abord. Témoin le mot déon convenable. Une observation qui s'est présentée à moi à l'occasion de ce mot et qui me revient en ce moment, c'est que notre belle langue d'aujourd'hui a fait exprimer aux deux mots déon et zémiodès tout le contraire de ce qu'ils veulent dire, tandis que nous en retrouvons dans l'ancienne langue la véritable signification. Mais comment cela? Oh, le voici. Tu sais que nos ancêtres faisaient beaucoup d'usage des lettres iota et delta, ce qu'on remarque encore dans le langage des femmes qui conservent plus que nous l'ancienne tradition. Tandis qu'aujourd'hui, nous substituons l'epsilon ou l'eta à l'iota et le zeta au delta parce que ces lettres nous paraissent avoir plus de noblesse. Dans quel cas? Par exemple, autrefois, on disait tantôt Himera, tantôt Héméra. Aujourd'hui, nous disons Héméra, le jour. En effet, oui. Et ne vois-tu pas aussi que le mot ancien Ré pense seul à la pensée de celui qui a fait les noms? Car c'est parce que les hommes désirent, Himerousine, de voir succéder la lumière aux ténèbres de la nuit, qu'ils ont donné au jour le nom de Himera. Bon, c'est évident. Mais aujourd'hui, devenu plus imposant sous sa forme nouvelle, on ne voit plus que ce mot héméra signifie. Au reste, selon certaines personnes, héméra vient de ce que le jour rend les objets plus doux. Héméra. Fort bien. Tu sais aussi qu'au lieu de dzugon, joug, on disait autrefois dusgon. Sans doute. Eh bien, Dzugon ne dit rien, tandis que Dusgon exprimait très convenablement l'assemblage de deux animaux pour conduire Deos Ducine Sthenagogène. Et aujourd'hui, nous disons Dzugon et on peut citer une foule d'exemples semblables. Il est vrai, le mot Déon convenable est de ce nombre. Ainsi prononcé, il semble signifier le contraire de tous les mots qui se rapportent à l'idée du bon. Il semble que ce déon, qui est une forme du bien, soit au contraire un lien, desmos, une entrave pour le mouvement et en quelque manière le frère du nuisible Braméron. En effet, Socrate, tel est le sens que ce mot présente. Mais il n'en est pas de même de l'ancien nom, qui naturellement doit être bien plus juste. Il s'accorde avec les autres expressions de l'idée du bien, si on substitue l'iota à l'epsilon, comme dans l'ancien langage. Dion, parcourant, et non pas déon, enchaînant, exprime ce que l'auteur des noms semble toujours louer comme le bien. Ainsi, il n'est pas en contradiction avec lui-même. Le convenable, déon, l'utile, ophélimon, le profitable Kerdaléon, l'avantageux Lustelun, le bon Agathon, le commode Symphéron, le facile Euporon, tout cela exprime la même chose par des noms différents, à savoir ce qui pénètre et ordonne tout, ce qui est partout célébré, tandis que ce qui retarde est et arrête est toujours très maltraité. Rendez à Zémiodès le delta des anciens. Vous avez évidemment le nom de ce qui arrête les choses dans leur marche, doustoion, c'est-à-dire le mot démiodès.